Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. Alors que l'on parle d'une campagne de vaccination qui pourrait commencer au premier trimestre 2021, alors que Bruxelles met l'accélérateur sur l'union de la santé afin d'harmoniser la réponse des 27 face à la pandémie, on comptabilise 13 millions de cas de personnes infectées au Covid en Europe. Couvre-feu et reconfinement se multiplient. Victimes collatérales, la convivialité et la fête. En Belgique, le monde de la nuit a mis la clé sous la porte depuis mars dernier, DJ, discothèques sont fermées et leur jeune clientèle est privée de sortie. C'est le reportage à Bruxelles de Lex Milota.
Ce morceau, intitulé Lockdown Music, a été composé par le DJ belge Henri PFR durant le confinement. Il rencontre beaucoup de succès, mais personne n'a jamais pu danser sur ce rythme dans les boîtes de nuit. Elles sont fermées depuis mars dernier. Drôle d'ambiance pour les étudiants, ne pas pouvoir aller danser, du jamais vu.
Danser, boire des verres, voir des amis dehors, tard le soir, enfin, là c'est compliqué en effet. Moi perso, je me sens seul et on se sent un peu restreint, beaucoup. Moi j'ai du mal à me projeter du coup, j'ai du mal à m'occuper dans la semaine en fait, tout simplement.
C'est nul, enfin c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. C'est vraiment perturbant, dans le sens de savoir qu'on peut plus s'amuser comme avant, entre copines et tout. On peut plus rien faire.
Bah oui, comme vous voyez l'affiche ici sur notre droite, la dernière soirée qui date du samedi 7 mars.
Nous entrons au Nostalgia Club, étrangement silencieux. Boule à facettes et lumières sont bien là, mais il manque la musique des années 80, le DJ et les danseurs. Le propriétaire, Michel Sluismans, ne vient désormais que pour récupérer les factures.
C'est silence total, on ne voit jamais ça comme ça. D'habitude, il y a 200-250 personnes par soirée ici. Ça vit, ça bouge, les gens s'amusent, font la fête. Et maintenant, bah, comme vous voyez, bah, c'est vite. Ça fait mal, quoi. Vraiment, ça fait mal. Parce qu'en plus, c'est un lieu très festif. Donc, voir ça vite comme ça, sans âme, voilà, c'est une grande tristesse.
Pour cet homme qui travaille d'habitude toutes les nuits de tous les week-ends, un vide s'est installé. Outre les difficultés financières, il doit faire face à un moral en baisse, en l'absence de toute perspective de réouverture.
Mon épouse travaille et je vis un peu à s'écrocher entre guillemets, ce que j'ai horreur de faire. C'est, comme vous dites, c'est toute ma vie. Moi j'ai commencé, j'ai 50 ans, j'ai commencé, j'avais 16 ans. Donc c'est aussi vraiment ma vie privée qui en prend un coup, parce que le moral, ben, il n'est pas bon, c'est certain. Évidemment, pensez bien, vous, hormis l'aspect financier des choses, ben, vous vous sentez inutile. Quoi.
Pour l'art, c'est de la poésie. Une toile, une âme, une histoire, une vérité. Je peux pas vivre sans mon art, car c'est mon art qui me parle et qui me guide.
Milo Savic est un DJ bruxellois. Lui aussi ne peut plus se produire la nuit, mais il n'a pas cessé de créer. Ce titre a été composé avec la rappeuse Neftis pour rappeler la souffrance du monde culturel.
Mais de là à ne pas être considéré, c'est juste du mépris.
Je pars du principe que pour moi, il y a un truc qui m'est toujours resté en tête en cogitant, c'est que la créativité ne peut pas s'arrêter. J'ai perdu mon petit frère, en fait, moi, du Covid. Donc, j'avais un petit frère handicapé. Il fallait que je me réfugie de nouveau dans la créativité pour m'en sortir. C'était le seul truc que je voyais. Moi, c'est le seul truc qui m'a permis de vraiment continuer à rester positif dans tout ce qui était noir dans cette situation.
On n'a pas de date. Et avec ce qu'on entend ces derniers temps, on n'est pas prêt d'en avoir une.
Toujours pas de date de reprise et cela désespère cette femme d'affaires. Evelyne Devroy est la gérante de la discothèque Bloody Louis.
Moi, j'ai l'impression que nous, tout ce qui est le monde de l'événement, le monde de la nuit, nous, on peut plus exister.
L'impression désagréable d'avoir été oubliée par le gouvernement.
Soit il nous donne un deadline, où nous pouvons recommencer. Sinon, à un moment donné, toute mon infrastructure, je la revends et j'arrête tout, évidemment.
Du haut de ses 60 ans, Evelyne Devroy a un petit conseil pour les ministres fédéraux.
Les gens sont de plus en plus tristes. Enfin, je veux dire, il va y avoir au niveau dépression un truc de dingue aussi qui va se passer parce que nous avons besoin de bonnes énergies. On a besoin de faire la fête. Alors, Vous allez me dire, non, tout le monde n'en a pas besoin. Visiblement, nous sommes gouvernés par des ministres qui ne font jamais la fête. D'ailleurs, vous le voyez, à leur couleur de peau, vous voyez qu'effectivement, si vous les prenez tous, il n'y en a aucun qui a bonne mine. Hein. Il n'y a aucun qui a l'air heureux de vivre.
Le secteur a déjà manifesté en octobre, demandant symboliquement aux participants de ne pas danser sur une musique pourtant très entraînante.
Reconfiner, c'est une question sur laquelle planchent de nombreux gouvernements. Faut-il ne confiner que les personnes les plus à risque, c'est-à-dire les plus âgées? C'est l'option qu'avait choisie la Turquie lors du premier confinement, une option contestée et qui n'est toujours pas digérée par ses aînés qui se sont sentis emprisonnés à Istanbul, à Nandlaouar.
Depuis début novembre, à Bursa, la quatrième plus grande ville turque, les plus de 65 ans n'ont le droit de sortir de chez eux que 6 heures par jour, entre 10h et 16h. Le reste du temps, ils ont l'interdiction formelle de mettre le nez dehors, même sous un masque, même pour acheter du pain, sous peine d'une lourde amende. La préfecture explique vouloir protéger les aînés face à l'explosion de nouveaux cas de coronavirus. Cette décision locale n'est que la répétition, sous une forme atténuée, de ce que la Turquie avait mis en place sur tout son territoire lors de la première vague de l'épidémie. Entre le 21 mars et le 1er juin, les plus de 65 ans ont dû rester cloîtrés chez eux, à l'image des moins de 18 ans. Au cours de l'été, les seniors ont regagné le droit de sortir quelques heures le dimanche, puis quelques heures chaque jour. Désormais, l'initiative est laissée au préfet qui, à l'image de Bursa, impose des restrictions horaires à la liberté de mouvement des Turcs les plus âgés. Ça fait grincer des dents. Dans les médias, parfois sur les réseaux sociaux, des plus de 65 ans s'insurgent contre cette logique qui consiste à ne pas confiner les Turcs dits actifs tout en enfermant chez elles les personnes âgées, non seulement parce qu'elles sont plus fragiles face au virus, mais aussi parce qu'elles sont jugées moins utiles à l'économie. Certains se plaignent de problèmes de santé ou de problèmes psychologiques liés à l'isolement prolongé et à l'absence d'activité physique. Certains trouvent cela dégradant, voire infantilisant, et l'acceptent d'autant plus mal qu'ils s'estiment laissés pour compte, alors que la société turque leur accorde d'ordinaire respect et considération. Ces dernières semaines, alors que l'épidémie repart de plus belle, les autorités turques envisagent d'imposer de nouvelles mesures nationales, mais elles excluent d'emblée un confinement total, privilégiant encore une fois un confinement des plus âgés.
La France reconfinée depuis fin octobre, et même si les règles sont les mêmes pour tous, la solitude à plus de 70 ans ou la solitude en maison de retraite au temps du Covid vient s'ajouter à d'autres maux, d'autres facteurs d'isolement. C'est le reportage dans le nord de la France, signé Lise Verbeck.
Oui ? Laurette a 71 ans, elle habite au premier étage d'un grand immeuble dans cet appartement aménagé avec soin.
Alors, donc c'est bon, allez-y, rentrez.
Merci. Des dizaines et des dizaines de photos recouvrent les murs.
Ça, c'est les petits-neveux. Ça, c'est mon frère qui est décédé. Il était pompier à Amiens. Ouais, c'est
les photos que vous regardez souvent.
Ah oui, c'est mon lien, ça. Ça, c'est mon lien.
Laurette a bien vécu le premier confinement. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur pour elle de se retrouver une nouvelle fois seule.
Je ne peux pas voir mon petit-fils. Je ne peux pas voir ma fille qui a 20 ans, qui fait ses études d'infirmière. Heureusement qu'il y a le téléphone. Et heureusement qu'il y a le portable. Parce que, bon, bah, avec Camille, je peux faire des vidéos. Heureusement, parce que c'est quasiment impossible. Ça serait invivable.
Elle fait partie de l'association Amiens Jeunes qui organise des thés dansants, des goûters d'anniversaire pour rompre la solitude des personnes âgées. Mais elle a dû cesser toutes ses activités et cela manque beaucoup à Laurette.
Bah, j'espère qu'on va mettre 2020 dehors, vite fait, bien fait, et puis qu'on va pouvoir reprendre sur des bonnes bases en 2021, parce qu'on en a besoin.
Pour mon journal en même temps.
Pour Jean-Paul et Thérèse, 74 et 71 ans, la vie est aussi au ralenti.
Bah, j'en ai déjà marre, ça fait 3 jours. Bah, on s'occupe comme on peut, quoi. Ma femme, elle vous dirait que je regarde beaucoup de foot à la télé. Puis le reste, bah, on attend.
On n'a pas à se plaindre par rapport à d'autres personnes qui sont confinées dans des petits appartements, mais l'isolement, c'est la même chose. Hein. Quand on peut pas voir ses enfants, petits-enfants, ses amis, on a vite fait le tour. Hein. Et puis je me dis aussi que nous, on est quand même un peu punis par rapport aux autres, parce que bon, on a plus de 65 ans, donc on doit faire attention, mais nous, on le fait. Depuis le déconfinement, on a fait attention. Et ben, finalement, il y a un tas de gens qui n'ont pas fait attention. Et résultat, ben voilà, on est reconfinés et c'est nous encore qui sommes punis.
Dans les maisons de retraite, le temps paraît encore plus long sous le confinement. Même si les visites sont autorisées pour la famille, elles sont très encadrées. Raymonde, 84 ans, est bénévole pour l'association Bras dessus, bras dessous. Et elle se rend chaque semaine dans un EHPAD près de chez elle pour tenir compagnie aux résidents. Mais depuis le mois de mars, elle ne peut plus y aller.
Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Ces personnes qui n'ont plus ma présence, disons. Bon. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas leur écrire? Donc, une lettre, je me suis dit, c'est plus important qu'un coup de téléphone, parce qu'une lettre, d'abord, il la palpe, il la touche, et c'est personnel. Dessus, je mets madame ou monsieur un tel, donc ils savent que déjà, il y a ce nom qui est important. Et puis, ils peuvent la relire, ils peuvent la garder.
Sur un joli papier à lettres, Raymonde prend de leurs nouvelles, leur dit de faire attention à eux. Et certains résidents lui répondent.
J'ai une personne qui peut être un petit peu plus triste dans sa tête vu son passé. Cette personne-là est plus pessimiste dans sa carte. Hein. Par exemple, elle emploie le mot prison. Hein. Elle me dit, on est comme en prison. Hein. Une autre, par contre, me dit, on a la chance de pouvoir descendre au restaurant. Avec beaucoup de contraintes, mais hein, donc des personnes à l'autre, si vous voulez, le ressenti n'est pas toujours le même.
Ces lettres sont une fenêtre entrouverte sur l'extérieur pour les résidents en EHPAD, car beaucoup souffrent de la situation.
Il y a des gens qui verbalisent très bien, qui ont pu verbaliser leurs angoisses en entretien, par exemple.
Charlotte Malbeau est psychologue en EHPAD.
Gens qui expriment clairement leurs soucis, leurs difficultés, le poids que ça peut peser aussi l'isolement, la tristesse que ça peut engendrer, surtout à l'approche en plus des fêtes. Et ensuite, on a des gens qui malheureusement ne peuvent pas s'exprimer. Donc ça va se traduire soit par des comportements qui sont un petit peu particuliers, c'est-à-dire les gens qui vont être très anxieux, qui vont se mettre à déambuler, qui vont se mettre à être un petit peu plus irritable, à rechercher du contact. Et puis on a aussi des personnes qui vont, en fait, on dit décompenser, c'est-à-dire que psychologiquement, on va vraiment avoir une dégradation qui va se faire ressentir, des gens qui vont se laisser aller, qui vont plus vouloir forcément participer, on va avoir une perte d'appétit, on a des choses qui peuvent aller jusqu'à des symptômes plutôt graves. Et qui, malheureusement, ces gens-là n'arrivent pas forcément à verbaliser, mais on sent bien que c'est vraiment l'isolement et le confinement, en tout cas les limitations de visite et les changements d'habitude qui pèsent sur le quotidien.
La psychologue travaille dans deux EHPAD, cela représente 200 personnes et elle ne peut pas les suivre toutes en entretien. Alors elle a sensibilisé et formé le personnel soignant à être attentif à ces changements de comportement, à organiser des temps d'écoute avec les personnes âgées. Et à partir de cette semaine, des bénévoles de la Croix-Rouge vont venir en soutien de ces équipes dans les maisons de retraite.
Et la déprime n'était pas une fatalité. En tout cas, en Irlande, pour le troisième âge, entreprises et institutions ont fait preuve d'imagination pour trouver des petites compensations salutaires à Dublin, Emeline Vin.
Il y a d'abord la Poste irlandaise qui ne fait plus payer l'affranchissement des cartes et colis à destination des maisons de retraite. Dans ces établissements, les visites sont suspendues pour 6 semaines, sauf motif compassionnel, c'est-à-dire pour dire au revoir à un proche en fin de vie. Avec ce geste, la Poste dit espérer apporter un peu de joie dans ces moments compliqués. Elle propose même des idées pour ceux qui seraient en panne d'inspiration, des coloriages, des cartes postales à imprimer. L'initiative reflète l'inquiétude concernant la santé psychologique des personnes âgées. Au printemps, les personnes dites vulnérables et celles de plus de 70 ans ont été appelées à cocooner, c'est-à-dire à ne pas quitter leur maison comme une chenille dans son cocon. Une recommandation jugée infantilisante et surtout facteur d'isolement. Alors pas de cocon cette fois-ci. Les personnes âgées isolées ont même le droit de s'associer à un autre foyer au sein d'une bulle sociale. Chacun reste chez soi mais peut se rendre librement dans l'autre domicile, même s'il est au-delà des 5 km réglementaires, dans le respect des gestes barrières, évidemment. Ce concept, inspiré du confinement néo-zélandais, est le bienvenu pour l'ONG de soutien aux personnes âgées isolées, Alone. Depuis le début du confinement, il y a 3 semaines, l'organisation
l'organisation est submergée de candidatures de volontaires pour tenir la ligne téléphonique d'écoute. Preuve d'une solidarité très importante en Irlande envers les aînés.
We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
We feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election.
Il va encore falloir patienter un petit peu pour que l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis soit officielle. En attendant, tous les pays européens, ou presque, ont félicité le candidat démocrate pour sa victoire, avec plus ou moins d'enthousiasme selon leur degré de connivence avec l'administration Trump. C'est ce que nous allons voir avec Daniel Vigneron du site MyEurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Alors, tous les dirigeants européens ont-ils félicité Joe Biden pour sa victoire ?
Presque tous, sauf le président slovène Janez Janša, qui, il y a quelques jours, avait estimé que la victoire de Donald Trump était claire. À part lui, tout le monde s'est fendu d'un message de félicitations au président élu. La plupart sont directs et certains dirigeants expriment explicitement leur satisfaction, à l'instar de la présidente de la Commission européenne, von der Leyen, qui félicite chaleureusement Joe Biden et Kamala Harris pour leur victoire. Tout comme la chancelière allemande qui se réjouit de la coopération future. D'autres, en revanche, sont plus ambigus. Il en est ainsi de Viktor Orban en Hongrie et d'Andrzej Duda en Pologne, qui se contentent de féliciter Joe Biden, sans le titre de président, pour sa campagne présidentielle réussie. Manifestement, ceux qui ont soutenu ouvertement la politique de Donald Trump ne veulent pas lâcher celui qui n'a toujours pas reconnu sa défaite.
Et qu'en est-il du Premier ministre britannique Boris Johnson, dont on a tellement dit qu'il était proche de Donald Trump ?
Certes, les deux hommes étaient sur la même longueur d'onde concernant le Brexit et la méfiance à l'égard de l'Europe. Mais les relations anglo-américaines sont cruciales pour le Royaume-Uni. Le Premier ministre ne peut prendre le risque d'indisposer la future administration alors qu'il est demandeur d'un accord commercial avec les États-Unis. Sans compter que Johnson a toujours exprimé son désaccord avec Trump sur le changement climatique. D'où des félicitations explicites de Londres à Biden et Harris pour leur victoire.
Et ailleurs en Europe, la question climatique est-elle aussi essentielle ?
Assurément. La France, l'Allemagne et bien d'autres pays du Nord ont fortement désapprouvé la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Pour eux, le retour annoncé par Joe Biden est essentiel. D'abord parce que les États-Unis sont le premier pollueur du monde, mais aussi parce que leur adhésion à l'accord conditionne le renforcement des engagements de la Chine ainsi que de plusieurs pays d'Asie ou d'Amérique latine.
Et la France, Daniel, a-t-elle d'autres raisons de se réjouir ?
Oui, car malgré des relations personnelles assez tumultueuses, mais plutôt vivantes entre les deux hommes, Emmanuel Macron s'est toujours montré en profond désaccord avec Donald Trump sur d'importants dossiers, comme l'OTAN et la défense européenne, la question iranienne ou encore la taxation des multinationales américaines de l'Internet. Sans parler des questions commerciales.
Et que dit finalement l'Allemagne de cette élection ?
Angela Merkel est le dirigeant européen ayant entretenu les pires relations avec Trump qui qualifiait d'insensé sa politique migratoire. Avec la victoire de Joe Biden, le soulagement de la chancelière est immense. Bien que non mise à exécution par l'administration Trump, la menace de taxer à 25% les importations d'automobiles européennes outre-Atlantique était une terrible épée de Damoclès sur la puissante industrie automobile allemande. Avec Biden, la chancelière peut compter sur un interlocuteur raisonnable.
Merci Daniel Vigneron, à très bientôt. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Victor Houle. Restez à notre écoute sur le site de RFI à la rubrique podcast et sur les réseaux sociaux. À demain.